Vous écoutez La Voix du Collectif. Bienvenue. La Voix du Collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Parole de Paysans. Nous sommes Julia et Judith, deux étudiantes en agronomie, et pendant 4 mois, on est en immersion au sein de collectifs agricoles. On vous invite à suivre notre expérience à travers une série de podcasts, dont voici le 5e épisode. On vous a quitté dans le dernier épisode sur le Causse du Larzac. Après une intense itinérance à vélo en direction des Cévennes, on se rend sur une nouvelle ferme collective. Comme le collectif tient à son anonymat, il a été renommé la Bargerie. Ça le représente plutôt bien. Le véritable nom a été parfois dévoilé par les membres. Il a donc été remplacé par des chants d'oiseaux. La Bargerie, c'est un petit hameau perdu dans les Cévennes, traversé par un ruisseau qui se transforme en cascade, où l'on vient se rafraîchir après une journée de travail. À l'entrée, une grande maison commune en pierre et répartie sur 13 hectares, des cabanes en bois, des yourtes et des caravanes. Là, travaillent et vivent 12 adultes et quelques enfants, mais aussi beaucoup de gens de passage, comme nous. On arrive dans la nuit, où on rencontre le collectif rassemblé jusque tard autour d'une belle tablée, comme c'est souvent le cas. De l'effervescence, de la musique, des rires, des petits chiots qui sautillent partout, on s'imprègne déjà de l'ambiance de la Bargerie.
Je lui ai dit que c'était l'eau des dieux, mais... Du coup, elle veut se prendre pour une déesse. Hein.
Ah ouais.
Bon, donc tu vas pas accepter de vie.
Je meurs de soif.
Ah, tu vas avoir des
Du coup, maintenant, elle me prend pour un dieu.
Un enfant, t'as la preuve. Regarde, t'as un poisson pour le mec.
On rencontre Charlotte et Vide, qui nous parle de l'état d'esprit du lieu et de ce qu'on y fait.
Je vais essayer d'être concise. Je m'appelle Charlotte, j'ai 34 ans. Mon résus, c'est B+. Je mesure 1m68. J'aime bien manger à peu près tout. Ma couleur préférée, non, j'en ai pas. J'habite au... depuis à peu près 5 ans. Voilà, je pourrais pas dire que j'ai un rôle précis dans cette affaire. Je fais un petit peu tout, j'aime bien. En fait, le délire de l'autonomie dans sa globalité me satisfait. Donc j'aime bien me sentir capable de faire du bois pour me chauffer, me sentir capable de faire pousser de la nourriture pour m'alimenter.
Je m'appelle Vide, je suis blaireau ascendant portefeuille. Et, je suis arrivé ici il y a 9 mois, ça fait 7 ans que je me balade par ici pour filer la main. J'aime bien. Je suis arpenté le métier, je suis toujours baladé à droite à gauche dans la planète. Du coup, nomade total depuis 10 ans, et là je me suis dit, ah tiens, ce serait une bonne idée de s'arrêter un peu.
Pour moi, c'est un rêve mis en pratique. Donc, que ça soit en termes d'actions concrètes et des activités qui peuvent être nourricières, etc., et finalement, dont tu as besoin, parce que sinon tu meurs de faim, tu meurs de froid, c'est aussi repenser tout en fait. Voilà, t'es pas satisfait d'un monde, tu t'en extrais, du coup tu participes à en créer un nouveau et à toutes les échelles. Donc ça peut être autant comment cultiver le sol, comment respecter le vivant dans toute sa globalité, comment repenser des systèmes de gouvernance, comment mettre à bas tout système de domination. Bah, c'est un travail infini en fait, qui est jamais abouti. C'est un énorme laboratoire d'expérimentation vivant et qui du coup va se nourrir de l'individualité de nouvelles personnes qui viennent, de celles qui s'en vont, et ça, c'est mouvant, c'est un golem vivant et mouvant dans le temps, quoi.
Avec des barges, quoi, ils sont tous fêlés, et ça c'est bénéfique qu'il y ait une assemblée de gens où j'ai vu tous les ans où je passais ici le truc évoluer, où il y a un énorme trou en plein milieu de l'entrée pour aller au dortoir qui est resté pendant 3 ans. J'hallucinais, quoi. Des choses qui sont absurdes, qui restent, tu vois, et qui. Bon, personne n'a eu le temps de le faire, du coup, ça ne s'est pas fait, et pourtant, ça. Pourtant, il n'y a aucun enfant qui est tombé, il n'y a aucun bourré qui s'est éclaté la gueule.
C'est aussi de où tu mets la priorité. Ouais. Ici, pour la petite histoire, il y a eu une salle de concert avant d'avoir une salle de bain. Voilà.
Alors, qui sont les habitants de la Bargerie et quelles sont les activités de la ferme?
On arrive quand même à avoir une population de 1 à 68 ans, de gens qui sont issus de milieux sociaux différents, qui n'ont pas tous fait des études. Après, si on fait en sous-catégorie, on va dire qu'on a des activités professionnelles individuelles sur le lieu, qui ne peuvent pas prendre 100% du temps, parce qu'évidemment, y a tellement de choses à faire que voilà, ce n'est pas comme s'il y avait un boulanger installé qui faisait du pain tous les jours. Donc il y a quand même une boulangerie qui fait du pain 2 fois par semaine. Il y a un brasseur qui va brasser pendant les mois les plus froids de l'année. Il y a un micro-maraîchage. Il y a d'autres personnes qui ont des activités qui peuvent être rémunératrices et ponctuelles à l'extérieur. Par exemple, Vid, il va pouvoir faire des travaux de charpente à l'extérieur. L'autonomie physique prend énormément de temps. Parce que cultiver un jardin d'un hectare et demi, exploiter la châtaigne pendant tout l'automne, jusqu'à obtenir près de 2 tonnes de châtaigne, la transformer. Puis ensuite, l'hiver vient le temps de, il faut abattre 30 stères de bois, le fendre, le stocker, attendre qu'il sèche.
Avec le maraîchage, le bois, les panneaux solaires, la phytoépuration et de nombreuses autres activités agricoles et artisanales, la dimension d'autonomie est très présente. Mais à quel point est-on autonome à la Bargerie? Et pourquoi cette recherche d'autonomie?
En termes de bois, 100%. En termes de ce qu'on a besoin pour se chauffer. Et le bois, du coup, c'est pas seulement la maison, mais c'est aussi la boulangerie, 2-3 habitats, nanana. Enfin, l'hiver, tu fais que cramer du bois, en fait. Financièrement, on a atteint l'autonomie. Ouais. C'est-à-dire qu'on est capable de payer les taxes, de payer
c'est super important.
Ce qu'on ne produit pas. C'est-à-dire le gaz qu'on n'a pas envie de faire tourner la boise dans la cuisinière l'été, les pâtes qu'on va choper à l'usine locale, le riz, et on arrive à financer le chantier co-travaux qui a lieu tous les printemps. Et après, c'est beau, ce qui est, enfin, c'est ça a plus de sens que tout, dans le sens où tu travailles, mais c'est ça, tu travailles pour personne, tu travailles pour toi, pour ceux que t'aimes.
Pour ceux qui viendront plus tard.
Pour ceux qui viendront plus tard. Il n'y a plus d'idée de propriété non plus, puisque le lieu va être donné un fonds de dotation.
Là, ça va prendre conscience aussi de plein de choses, de plein de petits détails, de combien ça coûte en vrai. Combien ça coûte en vrai d'efforts humains à une échelle humaine, à quel point on se rend plus compte.
Ouais.
Rendre les comptes, quoi. Enfin,
tu vois, c'est clair, quand les enfants dans la cabane, ils ont allumé l'interrupteur et qu'il y a eu l'électricité, on a fait une danse de la joie. On a fait une danse de la joie, ils avaient de la lumière, ils ont chanté, dansé pendant des heures. C'est se rendre compte, en fait, que quand tu es à l'origine de ton confort, quand le confort est là, tu le savoures. Et le bonheur, du coup, se trouve dans les choses les plus simples.
Quelques jours après notre arrivée, une tempête se lève sur la Bargerie. Un vent violent, une lumière jaune, des arbres qui tombent. On vous laisse en immersion dans la tempête qui illustre encore une fois la folie de ce lieu.
Je vais au camping-car fermer les fenêtres. J'y vais avec Marie, elle va au camion là.
Ok, mais vous faites super attention.
Oui, t'inquiète. C'est passé à ça de la baraque à pied.
Oh putain.
Il y a un arbre qui est tombé, ouais,
bah,
la calèche.
Côté,
la...
Ouais.
Oh la vache. Oh,
ouais.
C'est l'arbre qui a...
Mais attends, moi il y a ma sculpture qui est dessous. Hein. Bah là, moi j'ai ma sculpture qui est dessous l'arbre.
Hein.
J'ai ma sculpture, elle est dessous l'arbre.
Ouais, mais non mais solide. Ça a été amorti par le Douglas. Ah là là, mais ce vent horizontal quoi à un moment là. On a tout vu tous les arbres.
La tente d'Elo, elle est pendue dans un arbre. Non, parachute, le truc, allez. Et on
fait
oh là là.
Santa Natura pour toi! Ça recommence ou pas?
Qu'est-ce qu'il y a du savon?
Moi je pense que c'est Douglas qui a tout dévié.
Regarde, il y a un trou. Hein.
Ouais, un petit trou.
Ah ouais,
il y a un trou sur l'avant de la
carte. Au moins les brancards, ils ont dû être bien écrasés là. Alors que l'armoire
elle a dit oui.
Je veux vivre. Je veux faire des frites encore, s'il vous plaît.
Je suis jeune.
Je viens de terminer.
En temps normal, à la bergerie, il n'y a pas de réseau. Suite à cet épisode, elle se retrouve en plus coupée d'électricité, de son téléphone fixe et de sa Wi-Fi. Le calme après la tempête. On en profite pour discuter avec Gaston. Habitant et cuistot à la bergerie, il nous raconte comment tout a commencé.
Je m'appelle Gaston, j'ai 30 ans, je vis ici depuis plusieurs années. C'est difficile de dire exactement combien, parce que j'ai fait pas mal d'aller-retour, mais j'ai dû passer 5 ans ici, disons. Je suis cuisinier de métier, du coup, ici, je m'occupe de l'activité de restauration en événementiel. Et puis aussi, c'est moi qui ai mis au point les recettes de transformation de châtaigne. L'histoire, ça a commencé avec Audrey qui a acheté avec son ancien compagnon il y a bientôt 9 ans. Et pour monter un lieu collectif, mais il n'y avait vraiment pas de groupe, d'équipe au début. Elle a juste appelé les copains qui avaient envie de venir pour s'investir ici. Le lieu était en assez mauvais état. Elle a fait faire la toiture, les menuiseries et la façade dans le courant de la première année, il me semble. Et après, il a fallu faire tous les travaux petit à petit, et puis sur l'extérieur aussi. Il y a eu un gros mouvement dans le groupe. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, repartis. Vu que c'était une propriété individuelle, c'était assez facile. Il y a pas de part à acheter ou à revendre pour arriver, repartir, comme ça peut être le cas dans une SCI. Il y a beaucoup moins d'organisation aussi. Aucune structure, aucune réunion, enfin vraiment très très peu d'organisation.
Il nous explique comment le lieu s'est doté d'outils de gouvernance. Ils servent à l'organisation pratique, à la prise de décision et à l'expression des ressentis de chacun.
On a contacté des gens dont c'est le métier de faire de la médiation, de la facilitation pour les groupes. Puis après ça, on a été encore suivi par un autre ami qui fait aussi de la facilitation, vraiment lui, pour les collectifs, pour réécrire la raison d'être du lieu, les visions, et puis en arriver à, du coup, de fil en aiguille, en partant du plus abstrait, arriver vers le plus concret, jusqu'à aller choisir vraiment le statut juridique, de réécrire les statuts, de réécrire le règlement intérieur de la manière qui nous correspond le plus. Et ça s'est fait vraiment très progressivement, au fur et à mesure des besoins ressentis. Les besoins qui sont révélés les premiers, ça a été vraiment de l'organisation purement pratique. La première chose qu'on a commencé à mettre en place, ça a été les réunions hebdomadaires. Vraiment du coup d'organisation de la semaine et des événements à venir. Et ça a mis un certain temps avant que ça devienne une habitude, et maintenant ça paraîtrait impossible de pas faire cette réunion-là. On a mis en place aussi la journée collective, qui permet d'abattre le plus gros du travail collectif et ce qui demande le plus de gens d'un coup. Donc en hiver, c'est le bois de chauffage, en printemps, été, c'est beaucoup du jardin. Ensuite, il y a eu le tableau des tâches à la semaine qui a fait son apparition, avec au début surtout les repas, donc où chacun s'inscrit pour un repas par semaine. Du coup, on a mis en place le tableau des tâches hebdomadaires qui permet d'alléger en termes de charge mentale aussi tout le monde, parce qu'avant tout le monde pensait plus ou moins à tout, c'était vraiment très bordélique. Et là, maintenant, chacun s'inscrit pour une tâche pour la semaine. Donc, ça peut être les poules, ça peut être s'occuper des mulets, donc vérifier qu'ils aient bien de l'herbe dans leur pré, ou sinon les changer de pré, s'ils ont de l'eau, etc. Même des petites tâches peuvent être valorisées aussi, sinon il y a toujours la même personne qui y pense et qui le fait. Il y a un outil, c'est pareil, pour gagner en efficacité, en rapidité dans les réunions. Parfois pour prendre des petites décisions, qui est tout bête, c'est le tchat chaud-froid, c'est on sonde l'avis de tout le monde quand il y a une petite proposition, une petite décision à prendre. Chacun tend le pouce sous forme de thermomètre où le plus chaud est le pouce en l'air et le plus froid est le pouce en bas. Du coup, on voit instantanément si tout le monde est chaud. Bah, c'est bon, la décision est prise et actée, et ça prend 2 secondes. Et s'il y en a qui sont tièdes, voire froids, à ce moment-là, on va questionner ces personnes-là. Et s'il y a besoin de creuser, pareil, on creuse et on prend le temps qu'il faut. Ça peut prendre beaucoup de temps si on en parle, mais s'il n'y a pas besoin, au moins la question est réglée rapidement. Parfois, quand quelqu'un n'est pas d'accord, il ne va pas forcément le dire, il peut ne pas s'exprimer. Surtout quand c'est quelque chose de pas très important.
En pratique, le début d'une réunion hebdomadaire, ça ressemble à ça.
Est-ce qu'on fait un petit météo rapido, là, histoire qu'on comprenne la dynamique de cette réunion ? Ok, 1, 2, 3.
On fait des signes astrologiques qui parlent de notre météo à chacun.
Notre météo intérieure plutôt. Tu vois, ça c'est un soleil. Okay. Ça c'est un nuage. C'est un éclair. Ça c'est plutôt du brouillard vague. Tu peux aussi. Après, tu peux être créatif, faire des arcs-en-ciel, faire de la pluie.
Ok.
Après, c'est bien s'il y a quelqu'un qui veut parler de sa météo, qui en a besoin. C'est ce petit temps-là.
Moi, ça va super bien. Mais j'essaye de pas me faire submerger par l'espèce de tsunami qui est là. Et voilà, par rapport à mon titule de truc. Que je...
Le tsunami des choses à faire.
Ouais. Donc je le surfe.
Prends la vague là.
Ouais, voilà, je prends la bonne vague. C'est bon. On peut passer.
Ah, moi aussi, je suis un peu fatigué. Je vous remercie pour avoir géré la yurte. C'est cool, pouvoir compter sur vous, franchement. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Et puis voilà, au final, ça va, il n'y a pas grand-chose de perdu. C'est ça, de vivre en yurte. Hein.
Et ouais. L'iPad est sauf.
L'iPad est sauf, ouais. C'est le plus important. Franchement, avec l'iPad, je peux m'acheter une yurte, presque. Donc bon, il vaut mieux le sauver, lui, que la yurte, presque.
La bargerie, c'est comme une fourmilière de personnes, aux caractères divers et variés. Parmi tous ces visages, il y a les résidents permanents, mais aussi celles et ceux qui passent et restent pendant un temps. On donne la parole à Bertrand, Suzanne et Julien.
Bertrand, nomade, alors je dis souvent maintenant SDF, quand on me demande où j'habite. J'ai 42 ans et 43. Et j'ai démissionné de Thalès il y a 2 ans à peu près. J'ai souhaité faire du woofing. Je suis parti rencontrer d'autres fermes, d'autres lieux. J'ai rencontré des personnes d'un collectif dans les environs là et qui m'ont proposé de me joindre à leur chantier collectif qu'ils organisaient la semaine d'après. Et pendant le chantier, je discute avec des habitants du lieu et qui me parlent de ce lieu-ci où on se trouve et qui me disent « Ah ben voilà, toi qui es justement en recherche d'un endroit ou en train de visiter d'autres collectifs, il y en a un derrière là-bas, si tu as envie d'aller les voir, vas-y. » Bon, voilà, après, ils sont peut-être un petit peu plus route, plus... voilà, c'est une ambiance différente, mais bon. J'arrive juste au moment où il y avait le houblon à ramasser. Je suis resté une dizaine de jours, j'ai participé à 2-3 petits trucs, la vie du quotidien en fait. J'ai dû partir quelques jours après. Je suis revenu, je suis reparti. Mais je suis revenu ici en fait.
Moi, je suis Julien. Je suis le tonton de Gaston. Je viens ici depuis pas mal d'années. Alors là, je suis venu donner un coup de main. Ça faisait longtemps que je voulais venir voir. À chaque fois que je passais au... Je restais une dizaine de jours, une quinzaine de jours, grand maximum. Et en fait, j'avais envie, en revenant de Suisse, de voir vraiment comment ça m'allait de fonctionner en collectivité, de voir comment ça marchait. Et puis c'était l'occasion, avec le chantier collectif, de participer à des vrais projets dans la maison. Moi, j'ai fait pas mal de sculptures en tant qu'autodidacte. Et du coup, j'avais commencé une sculpture que j'ai presque terminée ici. J'ai pas vraiment eu le temps entre tous les trucs qu'il y a à faire dans cette maison. Mais c'est pas grave, maintenant je m'installe dans la région, donc j'aurai plus l'occasion de revenir et de finir et de peaufiner un peu cette pièce que j'ai entamée ici.
Moi, je m'appelle Suzanne, je suis arrivée ici d'un copain que je venais voir, plutôt musicienne, un peu prof d'acro-yoga. Je vis depuis longtemps dans des lieux collectifs, des communautés, collectifs artistiques et autres squats et occupations militantes. Un peu comme toujours, je crois juste que j'essaie de vivre ensemble et vivre d'une manière qui me paraît juste et cohérente. Donc ici, ça se résume à filer des coups de main un peu partout, notamment... moi, je suis plutôt un peu dans la construction. J'aime bien les vis et les perceuses. Et ça fait un lieu de plus. C'est toujours des respirations. C'est agréable de voir qu'il y a des gens qui vivent de la même façon que moi, que celle que j'aime, et une façon qui me plaît. Donc c'est... C'est une étoile de plus dans la nuit.
À la bargerie, tout le monde est maraîchère, cuisinier, bricoleuse, bûcheron, organisatrice d'événements, etc. En parallèle de ces activités communes, qui font vivre le collectif, chacun, chacune, a une activité personnelle professionnelle à temps partiel. C'est par exemple des activités agricoles et artisanales hébergées sur le lieu. Le maraîchage, la brasserie ou la boulangerie. On passe un moment avec Anthony, habitant de la bargerie depuis 5 ans et boulanger sur le lieu. Il y passe deux bonnes journées de plus de 8 heures chaque semaine. Couper du bois pour chauffer le four, préparer la pâte à pain, laisser lever, façonner, cuire le pain à point, voilà le quotidien de ces journées de fournée. On vous embarque avec lui dans la boulangerie.
Après, c'est ça qui va faire le pain. C'est ça la mie du pain.
C'est que la mie, ça ?
Oui.
Et la croûte, tu la rajoutes après ?
La croûte, c'est le levant.
Non.
Il y a beaucoup de farine. Je vais prendre un petit machin.
Allez, va-t'en.
Je vais prendre un petit morceau.
Ok, donc là, tu vois, je commence à enfourner. Si je rate la mise en place des premiers, ben, ça va foire toute mon organisation au four. Et les derniers, je ne pourrai pas les rentrer.
Il faut un coup de main, en fait, pour les...
Pour les jeter dedans, ouais. Il y a un petit coup de poignet à avoir. Ben, dans un four à bois comme ça, la cuisson, elle est plus uniforme que dans un four électrique ou à gaz, quoi. C'est plus pareil devant que derrière. Quand si t'as fait une bonne chauffe, comme je te disais tout à l'heure, là, si ta voûte, elle a bien été chauffée à blanc, ça cuit pareil. Si t'as la voûte qui rayonne, qui renvoie de la chaleur, la sole, il faut qu'elle soit quand même assez chaude pour cuire le... sous du pain, mais la voûte elle rayonne de la chaleur et elle cuit dessus. J'ai envie d'aller sous la cascade. J'ai le droit de dire ça.
Les résidents ont aussi des activités professionnelles à l'extérieur, dans des domaines totalement différents. Charpenterie, tatouage, spectacle de chant et de théâtre, écriture de contes pour enfants, etc. Être en collectif en agriculture facilite la pluriactivité. Comme on travaille à plusieurs, on peut se dégager du temps pour d'autres professions. La bergerie, c'est avant tout un lieu ouvert sur le territoire, un lieu de festivité et de joie de vivre. Un lieu d'accueil aussi, où chacun se sent vite à l'aise. Finalement, c'est surtout la diversité d'activités et de profils des habitants du lieu qui fait sa richesse. Tous ensemble, ils concentrent de nombreuses compétences, énergie, personnalité et joie de vivre. On les remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode au village Lavergne en Vendée, un tiers-lieu agricole dans des paysages bien différents. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes et de partager autour de vous si ça vous a plu. À bientôt.